Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Après 2 jours de visite en Chypre, le pape a entamé la 2e et dernière étape de son 35e voyage apostolique qui l'est conduit en Grèce depuis la matinée de samedi. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église avant de nous rendre au Tchad, au Congo-Brazzaville, au Bénin et en République démocratique du Congo. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira notamment en Gambie, en République centrafricaine, au Soudan. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
3e journée du 35e voyage apostolique du pape François qui l'a conduit de Chypre en Grèce. Une journée riche en couleurs. Donatien Niembo et Christian Combe pour nous en faire la chronique.
Deuxième étape de ce 35e voyage apostolique, le Saint-Père a quitté dans la matinée du 4 décembre le territoire chypriote. Il est arrivé vers 11h10 heure locale à l'aéroport d'Athènes, la capitale de la Grèce. La Grèce devient le premier pays européen en dehors de l'Italie à avoir accueilli 2 fois le pape François après sa visite du 16 avril 2016 à Lesbos. François marche ainsi sur les pas de Saint Jean-Paul II qui y est allé il y a 20 ans en 2001. Après la cérémonie d'au revoir à 9h10 à l'aéroport international de Larnaca à Chypre, l'avion du pape s'est envolé à 9h30 pour une arrivée à Athènes vers 11h10 heure locale. Comme le veut la tradition, le Saint-Père a envoyé un télégramme de congé au président de la République chypriote, Nikos Anastasiades. Au moment de conclure ma visite apostolique à Chypre, écrit François, je renouvelle ma profonde gratitude à votre excellence et au peuple chypriote pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Avec l'assurance de mes prières pour la paix et la prospérité de la nation, j'invoque sur vous toutes les bénédictions de Dieu Tout-Puissant.
Après l'accueil officiel à l'aéroport international, François s'est rendu au palais présidentiel à 12h où il a rencontré la présidente puis le premier ministre avant son discours aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique à 12h45.
Je viens en pèlerin dans ces lieux riches de spiritualité, de culture et de civilisation pour puiser à ce même bonheur qui enthousiasmait ce remarquable père de l'Église. La joie de cultiver la sagesse et d'en partager la beauté. Un bonheur non pas individuel ni isolé, mais qui, né de l'émerveillement, tend vers l'infini et s'ouvre à la communauté. Un bonheur rempli de sagesse qui, à partir de ces lieux, s'est répandu partout. Sans Athènes et sans la Grèce, l'Europe et le monde ne seraient pas ce qu'ils sont. Ils seraient moins sages et moins heureux, a déclaré le pape.
À 16h, il a effectué une visite à sa béatitude Hieronymos II, archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, qu'il avait accompagné à Lesbos en 2016. L'évêque de Rome et l'archevêque orthodoxe d'Athènes ont tenu ensuite à 16h30 une rencontre publique accompagnée de leurs délégations respectives en la salle du trône de l'archevêché orthodoxe. La fin de la journée a été consacrée à la minorité catholique, avec à 17h15 la rencontre avec les évêques, prêtres, religieuses et religieuses, séminaristes et catéchistes en la cathédrale Saint-Denis, les invitant à méditer sur l'histoire de Saint Paul en Grèce et à Athènes en particulier.
Chers frères et sœurs, ayons confiance, car être une église petite fait de nous un signe éloquent de l'Évangile, du Dieu annoncé par Jésus qui choisit les petits et les pauvres et qui change l'histoire avec les gestes simples des humbles, leur a dit l'évêque de Rome. À nous, en tant qu'église, a-t-il poursuivi, il n'est pas demandé d'avoir un esprit de conquête ou de victoire, la gloire de grand nombre ou la splendeur mondaine.
Tout cela est dangereux. Il nous est demandé de nous inspirer de la graine de moutarde qui est toute petite, mais pousse humblement et lentement. Il nous est demandé d'être le levain qui fermente, caché patiemment et silencieusement dans la pâte du monde, grâce à l'œuvre incessante de l'esprit, a insisté François.
Et enfin, c'est devenu une tradition de tous ses voyages, le pape a reçu les jésuites de Grèce à l'annonciature apostolique. Pour dimanche, le pape s'envolera pour Lesbos où il visitera les réfugiés au centre d'identification et de réception de Mytilène. Il y prononcera un discours ainsi que la prière de l'Angélus.
Après cette chronique du voyage du pape, prenons la direction de la République démocratique du Congo, où les évêques de Lissala et de Bassankoussou ont dénoncé des actes de violence dans la province ecclésiastique de Mbandaka. Notre correspondant local nous en donne plus de détails.
Violence dans la province ecclésiastique de Mbandaka. D'abord au grand séminaire interdiocésain de théologie Saint-Pierre et Paul de Lissala. L'archevêque de Mbandaka Bikoro, Mgr Ernest Mboko, a dénoncé la violence subie par une dizaine de grands séminaristes blessés par des habitants du village voisin de Bosokbete. Des villageois ont spolié une partie de la concession du grand séminaire. L'évêque de Lissala, Mgr José Bernard Licolo, a pour sa part expliqué que la justice avait déjà bien tranché le contentieux foncier en donnant raison au grand séminaire. Violence aussi au diocèse de Bassankoussou. Mgr Joseph Mokobe a appelé au secours pour une aide humanitaire le vendredi 3 décembre sur les drames survenus fin novembre dans la paroisse Sainte-Thérèse de Djombo dans le secteur administratif de Gombalo. Des centaines de personnes munies d'armes blanches venues des groupements voisins ont envahi le groupement de Djombo, tué 3 personnes, brûlé des centaines de maisons, obligeant à la fuite des milliers de victimes. L'évêque de Bassankoussou plaide pour une aide humanitaire aux sinistrés. Il demande au pouvoir public de rétablir la paix et la sécurité et surtout de rendre justice dans ce conflit présenté comme un conflit entre les ethnies Mongo et Ngombe, mais que l'on devrait attribuer à une lutte entre politiciens. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Tchad, commencé le 29 novembre dernier, le colloque théologique international de N'Djamena avait pris fin le 1er décembre 2021. C'est le président de la conférence du Tchad et archevêque métropolitain de N'Djamena, Mgr Edmond Djitangar, qui a clos les travaux. Complément d'informations dans ce reportage.
3 jours durant, les hommes de Dieu, les leaders politiques et scientifiques, les laïcs chrétiens et sympathisants ont décrypté les messages des évêques du Tchad à l'Église et à la nation de 1965 à 2020 avec pour titre « Veilleurs sur la cité ». Les différentes interventions sont centrées sur les thématiques liées aux engagements religieux, politiques et sociaux. Une question fondamentale a jalonné ce colloque. Comment peut-on regarder le passé avec gratitude, contempler le présent avec foi et envisager l'avenir avec espérance? Mgr Edmond Djitangar, président de la conférence épiscopale du Tchad, répond dans son mot de clôture en ces termes.
Nous avons parlé avec l'inspiration du Saint-Esprit au nom de cet unique berger Jésus-Christ. Ce colloque est un point de départ important. Il nous trace un nouveau chemin à parcourir ensemble dans la complémentarité vers un renouvellement de nos engagements au service de notre société tchadienne. Et pour la réussir, cette longue transition qui nous conduira vers la célébration prochaine du centenaire de la présence de l'Église catholique au Tchad, nous devons marcher ensemble.
La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, disait Saint Irénée. C'est sur ce ton que s'est conclu ce colloque premier du genre au Tchad, invitant chacun et tout le monde à l'action. Séverin Dingatolum pour Radio Vatican.
Refermons cette page de l'actualité de l'Église par cette bonne nouvelle qui nous vient du diocèse de Parakou au Bénin. Il s'agit de l'ordination sacerdotale de 3 diacres par l'imposition des mains de Mgr Pascal Nkoué, archevêque de Parakou.
Ils sont devenus depuis le samedi 27 novembre 2021 dans l'archidiocèse de Parakou au Bénin, prêtres de Jésus-Christ pour toujours. Il s'agit des abbés Samson Mehou, Yahi Wilfried et Modeste Abo, respectivement des paroisses Saint-François de Sales de Okedama, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Titirou et Saint-Laurent de Wansirou. L'ordinaire du lieu, l'archevêque Monseigneur Pascal Nkwe leur a imposé les mains au cœur de la messe d'ordination qu'il a présidée en sa cathédrale Saint-Pierre et Paul. Une occasion qu'il a saisie pour situer son clergé et le peuple de Dieu sur le sacerdoce ministériel et ses implications aussi bien pour le prêtre que pour les fidèles chrétiens.
Le sacerdoce de Jésus est d'abord un don gratuit de Dieu pour toute l'humanité. C'est une grâce inouïe, c'est une fonction totalement altruiste. On est prêtre pour ceux qui sont sur terre, pour les vivants. Ceux pour lesquels nous devenons prêtres sont des co-responsables. Vous êtes des co-responsables de vos prêtres.
Et le prélat de prodiguer quelques conseils aux ordinants.
Le moteur de la vie sacerdotale, c'est la vie spirituelle. Père Diacre, ne négligez pas la liturgie des heures. Ne négligez pas la méditation et surtout l'oraison d'intimité.
Guy Dosuyovo, autonome pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les bureaux de vote étaient ouverts samedi à Banjul et dans les environs de la capitale gambienne où des files d'électeurs s'étaient déjà formées pour ce vote crucial dans ce pays qui cherche à surmonter notamment les effets du Covid-19 sur une économie fragile. Au Mali, au moins 30 personnes ont été tuées vendredi dans l'attaque des djihadistes présumés d'un véhicule de transport près de Bandiangara, dans la région des Mopti, dans le centre du pays, ont indiqué samedi des responsables locaux. Des autorités locales qui ont requis l'anonymat ont par ailleurs déclaré que l'État avait envoyé des forces de sécurité sur place. Toujours au Mali, les assises nationales à l'issue desquelles les militaires au pouvoir doivent fixer une date pour la tenue d'élections vont se tenir du 27 au 30 décembre, a annoncé vendredi l'organe chargé de leur organisation. Au moins 7 civils, dont 2 enfants, ont été tués dans l'attaque d'une cité minière par des milices dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont annoncé samedi des sources locales. Les miliciens du groupe armé coopérative pour le développement du Congo, CODECO, ont mené vendredi une attaque contre la cité minière de Mungwalu dans les territoires de Djougou, au nord de Bunia, capitale provinciale de l'Ituri.
Radio Vatican, France-Afrique. Stanislas Kambashi.
Au moins un policier a été tué lors d'une attaque des groupes armés dans le sud de la Centrafrique en proie à des combats entre des rebelles et l'armée, a annoncé samedi le gouvernement. Les rebelles ont attaqué jeudi la ville de Kwango à 300 km à l'est de la capitale Bangui, près de la frontière avec la République démocratique du Congo et ont pillé plusieurs ménages, tuant un policier en service, a assuré le gouvernement, qui met en cause les rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique, un des principaux groupes armés présents dans l'est du pays, qui, selon la primature, continue de violer les cessez-le-feu décrétés par le président Faustin Archange Touadéra le 15 octobre pour favoriser l'ouverture prochaine d'un dialogue national. Les transporteurs sénégalais ont mis fin tard dans la nuit de vendredi à samedi à leur grève pour protester contre les tracasseries des forces de l'ordre et fixer un ultimatum d'un mois au gouvernement pour le respect de ses engagements. Après 3 jours, les véhicules de transport étaient visibles dans les rues de Dakar et à l'intérieur du pays samedi, selon des témoins sur place. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les autorités soudanaises, dans un rapport remis vendredi au Conseil de sécurité, à respecter la liberté d'expression et de la presse dans un environnement qu'il juge de plus en plus hostile aux journalistes. Les chefs de l'ONU exhortent par ailleurs les autorités soudanaises à se conformer à leurs obligations en vertu du droit international des droits humains et à respecter les droits à la vie, à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé vendredi de 3 mois, contre des reconductions annuelles jusqu'alors, l'autorisation faite à des navires de guerre de lutter contre la piraterie au large de la Somalie en raison de la volonté de ce pays de retrouver la pleine souveraineté de ses eaux nationales.
Invité du jour.
Notre invitée du jour est aujourd'hui Madame Mamichu Ponchi Lobo, congolaise, copilote chez Congo Airways et secrétaire générale de l'Association des pilotes du Congo. Elle est également activiste des droits des femmes, mentor de Afrian RDC, un réseau de jeunes pour le développement et la population. Elle nous parle de son parcours d'une femme qui a voulu établir un équilibre dans le monde des métiers. On l'écoute.
Moi, c'est plutôt la révolte. Mon père s'est fait un ingénieur d'office de route, donc on faisait tout le Congo pratiquement. Et quand on atterrit au Kasaï, je trouve une province où, évidemment, c'est ma province d'origine, mais je trouve une province qui discriminait la femme et qui la réduisait à une chose, et tous les travaux domestiques et tout ça là. Alors, quand moi je suis arrivée, je me suis dit, moi, je serais exactement la différence de cette femme-là. Je me suis mis à travailler dans ce sens, et comme j'avais trouvé qu'à l'époque, les femmes ne faisaient même pas d'études scientifiques, c'était plus dans le commercial, couture et tout le reste. Moi, j'ai décidé de faire les sciences.
Voilà, vous avez décidé de faire les sciences et aujourd'hui, vous êtes pilote. Et est-ce que vous êtes satisfaite vous-même de ce travail que vous faites aujourd'hui?
Plus ou moins satisfaite, mais j'ai encore du chemin parce que je serai satisfaite le jour que je serai commandant de bord d'un avion au Congo et le jour que je serai peut-être dans l'équipe dirigeante de l'aviation civile de mon pays.
Ça viendra certainement.
Évidemment, j'y travaille.
Et comment vous sentez-vous lorsque vous êtes en plein vol dans votre cabine, sachant que vous tenez en main la vie de beaucoup de personnes, de vos passagers? Quel sentiment vous anime? Est-ce la peur? Est-ce l'angoisse? Ou bien vous vous sentez normal?
Pour moi, c'est plutôt beaucoup de responsabilités. Donc, j'ai un peu le petit stress d'avoir ces sens de responsabilité, d'avoir les vies et mains entre vos mains et sachant que ces personnes dépendent de vous. Et l'air sécurité aussi. Donc c'est plutôt ça, il n'y a pas de peur parce que c'est l'endroit où j'essaie bien vivre.
Et Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours. Comment a-t-il été? Assez laborieux, difficile, semé d'embûches ou plutôt facile pour vous?
Bon, dire facile ce serait mentir. Mais bon, j'ai un parcours qui est plus ou moins équilibré. J'ai eu difficile d'intégrer le monde, très difficile, parce que venant déjà d'un pays patriarcat où les femmes étaient pratiquement écartées, j'ai décidé de faire les études scientifiques. Après, je suis allée à l'Institut supérieur des techniques appliquées pour faire ingénieur en aéronautique civile, option exploitation aéronautique. Et de là, j'ai décidé de partir continuer le pilotage parce que c'était déjà un choix que j'avais fait très jeune, déjà en quatrième des humanités. Pendant mes vacances, j'ai constaté que dans les avions, dans le cockpit, il n'y avait que deux hommes et à l'arrière, il y avait des femmes hôtesses de l'air. Alors moi, je voulais inverser le rôle et j'ai décidé d'inverser les rôles dans ma tête. Je l'avais déjà fait, alors il me fallait un parcours. Arrivé en Afrique du Sud pour commencer mes études de pilote, je suis tombée dans une école qui était pas très favorable pour moi parce que ils ont fini par me faire croire que j'étais pas faite pour être pilote. Mais bon, comme je suis quelqu'un de très déterminé, je suis repartie pour changer d'école et refaire les pilotes privés. Et voilà, aujourd'hui, je suis pilote commercial après beaucoup d'embûches et tout ça. Mais bon, j'ai surmonté. C'était pas très facile. Puis, je suis revenue au pays travailler. Et revenir au pays, il n'y avait pas de boulot. Je suis revenue avec 230 heures, si je ne me trompe. Et je ne pouvais pas avoir de boulot. Donc, du coup, je suis partie à l'est de la République. J'ai commencé à travailler pour une petite compagnie qui faisait les transports de minerais, Goma Express. Et dès là, le commandant Jules Mangala m'a découverte et m'a ramené faire l'aviation, comme il se doit. Donc, c'est là que j'ai commencé. J'ai dit toujours l'aviation propre. On m'a envoyé en formation aux États-Unis pour faire la qualification sur le HS 125-700-800 et 800-XP. J'ai travaillé 20 mois pour Katanga Wiz, qui était une compagnie de l'ex-gouverneur dont j'ai eu même la chance de voler, le gouverneur Katumbi. Et puis, je suis revenue à Kinshasa. J'ai travaillé pendant 3 ans pour Air Baraka. Et chez Air Baraka, j'ai aussi volé le même type d'avion, le 700, HS-125-700. Puis, en 2016, j'ai atterri chez Congo Airways. Avant d'arriver chez Congo Airways, j'étais déjà secrétaire général de l'association des pilotes. Donc, on a fait le lobbying pour mettre en place la compagnie. Et puis, j'ai adhéré à la compagnie. Arrivé là, c'était la phase un peu la plus difficile parce qu'on m'a encore notifié. Cette fois-là, c'était pour me dire que j'ai une très bonne attitude, mais je ne suis pas faite pour les cockpits. Je pouvais faire le bureau, tout le reste, sauf le cockpit. Après une
sorte de découragement chaque fois.
En tout cas, ça, je peux dire ça, ça m'avait vraiment atteint parce que c'est une lettre qui me signifiait que ma carrière s'arrêtait. Mais bon, comme j'étais secrétaire générale de l'association des pilotes, les pilotes m'ont soutenue et le gouvernement. Mais voici aujourd'hui chez Congo Airways et je crois que vous pourrez avoir les témoignages de tous mes passagers.
Grâce à votre détermination, vous avez donc déjà un parcours. Et avec votre travail, que pensez-vous apporter particulièrement à votre pays, la République démocratique du Congo?
Beaucoup, parce que c'est un travail qui... Moi, je me dis toujours que nous sommes les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Particulièrement, je vole dans la compagnie nationale et la compagnie nationale, elle atterrit dans d'autres aéroports. Vous êtes là, et vous portez l'emblème de votre pays, c'est une certaine fierté et les gens vous questionnent sur votre pays et ça nous permet de parler de notre pays, de faire des communications, de parler de nos problèmes et de ce qu'il y a, ce qui attire. Et moi, je pense, l'aviation peut apporter beaucoup en République démocratique du Congo, surtout que c'est un pays continent qui est en voie de développement, il n'y a pas de route, donc nous permettons les déplacements un peu partout en République démocratique du Congo et hors le Congo.
Madame Mamicho Ponchilobo, congolaise, copilote chez Congo Airways, secrétaire générale de l'Association des pilotes du Congo et activiste de droits des femmes, mentor des Afrian RDC, un réseau de jeunes pour le développement et la population. Le père jésuite Martin Bahati nous introduit à la méditation avec les lectures du deuxième dimanche de l'Avent.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous propose de célébrer le deuxième dimanche du temps de l'Avent, année liturgique C. Les lectures du jour nous invitent à l'espérance et à la conversion. La première lecture, tirée du livre de Baruch, commence par nous inviter à l'espérance. Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Le prophète annonce des jours meilleurs. Le mal et la mort n'ont pas le dernier mot. Toute souffrance a une fin. L'Avent fait entrer dans cette espérance de fin de souffrance. L'Avent est une marche vers la paix, la sérénité, vers la lumière, vers Jésus qui vient sauver le monde. L'Avent invite à l'optimisme. Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Dieu sauve son peuple de tous les temps et de partout. Il fait sortir la vie de la mort, la lumière des ténèbres. Nous portons dans notre prière les soucis du monde actuel, frappé par la pandémie à coronavirus, mais aussi de tous ceux qui traversent des moments sombres et difficiles. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, la même espérance continue à habiter l'apôtre des gentils. Enchaîné dans une prison sans espoir de sortie, Saint Paul ne cesse de prier pour les Philippiens et à les exhorter à progresser dans la foi. Cette foi qui est signe par excellence d'espérance. Il leur écrit « Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. » Ils rappellent avec joie les progrès qu'ils ont accomplis en tant qu'Église locale. Ils les félicitent d'avoir contribué à la diffusion de la bonne nouvelle dès qu'ils l'ont entendue. Dans sa prison, l'apôtre Saint Paul nous invite à regarder la vie et surtout les gens avec des yeux pleins d'espoir, même en période sombre. Voir les personnes avec des yeux pleins d'espoir nous fait prendre conscience du bien dans leur vie. Reconnaissons ce qu'ils ont fait plutôt que ce qu'ils n'ont pas fait. L'évangile de Saint-Luc reprend l'appel de Jean-Baptiste qui invite le peuple au baptême de conversion pour le pardon des péchés. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ce sentier. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. et tout être vivant verra le salut de Dieu. L'Avent est un défi à la conversion, à un travail sur soi. C'est un défi de préparer dans sa vie le chemin du Seigneur et à la fin, la rencontre avec lui. La vraie préparation du chemin du Seigneur commence par l'acceptation honnête de notre état de pécheur. Ensuite, nous nous détournons du péché en nous tournant vers Dieu. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu nous accorde sa grâce durant cette période méditative de l'Avent, de combler les ravins en nous, d'abaisser les montagnes et les collines dans nos cœurs, afin que nous puissions voir son salut en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que prend fin notre programme aujourd'hui. Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Radio Vatican.